Radio J.
Radio J.
Bonsoir, c'est Lise Gutmann. Vous écoutez Radio J, il est 22h.
Radio J.
Radio J.
Lise Gutmann.
Radio J.
Radio J.
Les invités de Lise Gutmann.
Fabien Azoulay, bonjour, merci d'être avec nous dans le cadre de la campagne de l'appel national pour la Tzedaka 2024.
Bonjour Lise, bonjour à tous.
Alors, vous êtes en charge des solidarités au FSJU, Fonds Social Juif Unifié. Quels sont les besoins cette année particulièrement ?
Alors, cette année, alors comme tous les ans, quelque part, les enjeux essentiels de précarité, bien sûr, sont toujours présents.
Oui.
Mais cette année particulièrement, on s'aperçoit que les familles sont de plus en plus nombreuses. Beaucoup de familles monoparentales font appel à la générosité communautaire. Et c'est la raison pour laquelle cette année, on met l'accent particulièrement sur cette précarité, mais aussi sur des enjeux différents comme la question des enfants. En fait, aujourd'hui, toujours sur ces enjeux de précarité, les enfants ont besoin, les familles ont besoin, par exemple, d'aide pour financer la cantine scolaire.
Bien sûr, bien
sûr. Et là, on voit combien de plus en plus les personnes se retrouvent en difficulté, d'autant plus, et vous l'avez suivi cette année vraiment particulière, des familles qui avaient leurs enfants scolarisés à l'école publique.
Ont dû rejoindre l'école juive.
Voilà,
on ne le
exactement.
Dit pas assez, mais c'est un véritable problème. Et l'école juive, elle est privée, il faut des moyens. Alors justement, la Tzedaka est là pour ça.
Oui, tout à fait. Et grâce aux donateurs qui suivent l'appel national pour la Tzedaka, et vraiment merci à tous, et je vous invite vraiment à faire vos dons sur tzedaka.fr. Il faut continuer, parce qu'aujourd'hui les demandes d'aide, notamment pour la cantine, notamment pour boucler les fins de mois, tout simplement pour les familles, ça devient vraiment compliqué.
Alors, on fait un don, tzedaka.fr ou tzedaka.fsju.org. De toute façon, on y arrive. Le don est sécurisé et c'est tellement important parce que on soutient vraiment toutes ces personnes en difficulté grâce aux dons qui sont effectués. Alors, pendant 3 jours, jusqu'à hier, je crois, dimanche, oui, lundi, mardi, il y a eu cette campagne où les dons étaient doublés. Avez-vous un chiffre à nous donner ou pas encore?
Nous avons atteint hier les 2 250 000 euros.
Ah oui, quand même.
Oui, et c'est une très belle somme,
oui,
parce que ça va nous permettre effectivement de pouvoir répondre à une partie des demandes. La campagne de l'appel national pour la Tzedaka dure jusqu'au 15 décembre.
Oui.
L'objectif, c'est d'aller chercher 3 millions et demi d'euros, parce que aujourd'hui, au-delà de ce que j'ai mentionné, et juste pour précision, Lise, quand même que nos auditeurs le sachent, je vous parlais des aides à la cantine. Aujourd'hui, c'est plus de 2 500 élèves scolarisés dans les écoles juives qui bénéficient de ces bourses cantines. Et pour relier sur la question des enfants, chaque année, grâce à vos dons, le FSJU permet à plus de 2000 enfants de partir en vacances l'été. Et ça, c'est des choses qu'ils ne pourraient pas faire s'il n'y avait pas ces aides-là.
Bien sûr.
Aujourd'hui, voilà, l'appel national pour la Tzedaka, c'est vraiment un moment important de la générosité juive en France. Il faut donner, parce que grâce à vous, on peut mettre en place ces programmes tout au long de l'année.
Exactement. Alors, la précarité, on l'a compris, beaucoup de familles monoparentales touchées au niveau des enfants. Comment est-ce que ça se passe au niveau, par exemple, de leur travail, de leur suivi scolaire?
Alors, effectivement, la problématique de la précarité a, bien entendu, des impacts sur nos jeunes. C'est la raison pour laquelle le Fonds social Juif Unifié, notamment avec en partenariat avec des associations comme la Fondation OPEJ, comme l'OSE, comme le CASIM à Marseille,
oui,
mettent en place un dispositif qui s'appelle Horizon Enfance, qui est un dispositif de soutien psychologique et d'accompagnement, de détection de problématiques psychosociales, parce que on ne le dit pas assez, mais les enfants sont évidemment ne sont pas que des élèves, leurs problèmes ne s'arrêtent pas à la grille de l'école.
Bien sûr.
Donc, en fait, ils arrivent avec les problématiques qu'ils peuvent rencontrer à la maison, le stress, l'angoisse des parents évidemment, et puis bien sûr depuis le 7 octobre, ce traumatisme qui nous a tous touchés et qui a une certaine porosité bien sûr sur les enfants, fait que aujourd'hui on a aussi besoin d'accompagner nos jeunes sur des problématiques qui sont pas stricto sensu de la précarité, mais qui ont des conséquences importantes sur leur développement. Et bien sûr que la question des angoisses post 7 octobre, bien sûr que la question aussi des violences, on parle beaucoup de harcèlement scolaire ces derniers temps, ou malheureusement aussi de violences intrafamiliales, font qu'aujourd'hui, le Fonds social Juif Unifié, les écoles partenaires et les associations travaillent sur ce dispositif qui est absolument crucial pour accompagner nos jeunes vers un bel avenir.
Donc c'est un message important que vous nous faites passer, Fabien Azoulay, vers un bel avenir. Il faut se projeter et c'est important. Et c'est en cela que cette campagne est importante et que les dons sont importants pour aider à positiver, on peut dire.
Oui, le soutien immédiat, bien entendu que la question de la précarité, les gens, ils ont d'abord besoin de manger, on va dire.
Bien sûr.
Il faut avancer là-dessus, il faut que vous nous aidiez là-dessus. Comme je le disais, les besoins augmentent vraiment d'année en année. On le voit avec des problématiques de plus en plus complexes liées à d'autres facteurs comme justement le fait qu'il y a malheureusement de plus en plus de familles monoparentales. Le fait aussi que, on parle beaucoup des enfants, mais la population vieillit et les personnes âgées aujourd'hui sont aussi... pour une partie d'entre elles en situation de précarité. Il faut savoir
que
on est à la retraite. Alors si on a travaillé, etc., on a une retraite qui peut paraître correcte, mais quand on n'a pas forcément beaucoup travaillé, on a un minimum vieillesse aujourd'hui qui est autour de 860 € par mois. Avec 860 € par mois, on fait pas grand-chose malheureusement.
Ouais, on fait rien même, on peut dire.
On peut boucler aussi les fins de mois, et là c'est compliqué parce que les perspectives d'évolution de revenus sont pas franches. Vous voyez, quand c'est des jeunes, on peut dire on va trouver un travail, on va faire une formation professionnelle. Quand on est une personne âgée, ça devient compliqué. Donc tout ça, bien sûr que c'est essentiel, mais au-delà de ça, le Fonds social Juif Unifié et les associations partenaires que j'ai mentionnées, par exemple, entre autres, s'attachent beaucoup à travailler sur le soutien de nos populations à travers notamment du soutien psychologique, à travers de la chaleur humaine, tout simplement des lieux de rencontre. Pour prendre un exemple, une association que nous soutenons et que vous retrouverez dans l'appel national pour l'aide Sedaka, qui est l'association La Table du Cœur,
sous le Oui, bien
Ils
sûr.
Ont un restaurant social. Ce restaurant social, bien sûr que les gens viennent pour manger un repas chaud et c'est déjà beaucoup, mais c'est aussi de la chaleur humaine, c'est aussi de la rupture de l'isolement pour des personnes qui sont extrêmement précarisées et extrêmement isolées.
Donc tout ça est vraiment fondamental. Alors vous travaillez sur cette thématique toute l'année, Fabien Azoulay ?
Oui, tout à fait. Alors bien sûr que l'appel national pour aider Dakar, on le met en avant du 15 novembre au 15 décembre. Vous pouvez bien évidemment faire vos dons toute l'année.
Oui.
Et nous, nos équipes, que ce soit nos bénévoles ou nos professionnels, travaillent toute l'année, bien sûr, sur ces sujets-là. Et ça va au-delà, puisque on a j'ai pas le temps de citer tous les programmes évidemment que nous mettons en place, mais nous travaillons à la fois sur les problématiques de précarité, comme on l'a dit, et à travers des fonds d'aide spécifiques, et aussi des enjeux de logement, parce que la question du logement est absolument cruciale pour beaucoup de nos coreligionnaires, et on ne le dit pas assez, mais beaucoup de gens se retrouvent parfois en situation de parcours de rue, se retrouvent en situation d'expulsion locative, se retrouvent aussi dans des logements qui sont insalubres. On parle beaucoup de passoires énergétiques, etc. Mais c'est des vraies questions aujourd'hui qui empêchent les personnes de se loger correctement. Et au-delà de ça, bien sûr que nous travaillons sur d'autres enjeux comme le handicap. J'en ai pas parlé, mais la question du handicap aujourd'hui, c'est à la fois bien sûr des établissements que nous soutenons, des associations que nous soutenons, comme l'association ABPIUH, comme l'association Les Rayes Handicap aussi, que vous pouvez retrouver dans les films de la Tzedaka. Mais c'est au-delà de ça, la question du maintien de l'autonomie et de l'insertion de la personne dans la société. Comment est-ce qu'une personne en situation de handicap peut travailler aujourd'hui? Et c'est la raison aussi pour laquelle nous soutenons les actes de la coopération féminine. Donc vous voyez, il y a plein de sujets. J'ai cité la précarité, le handicap,
bien
des
sûr.
Personnes âgées, la protection de l'enfance. Donc ouais. Vous voyez, c'est très large. On ne conçoit pas forcément facilement que toutes ces problématiques existent aussi au sein de la communauté juive. Mais après tout, malheureusement, il n'y a pas de raison particulière pour qu'elle n'existe pas.
Bien sûr. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Fabien Azoulay, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes en charge des solidarités au Fonds social. Je rappelle également que le don est vraiment important, fondamental pour soutenir toutes ces associations que vous venez d'évoquer. Pour nous, on va sur tzedaka.fr ou tzedaka.fsju.org. Merci beaucoup et bonne journée à vous. Au revoir.
Merci à vous, Lise. Bonne journée à tous.
Et tout de suite, eh bien, on part en musique en Israël, juste avant de retrouver la chronique de Jean-Claude Kupermak.
מבינים איך את לבד אם את הכי יפה בעולם איך ילדה של תורה לובשת קצר והלב שלה הרום על נייר אומרים שצומח פה דור בלבול דור מבול אבל כמה יפה הוא שר בסליחות עננו, עננו כל הסדום ותל אביב וזה עושה לך טוב, עושה לך רע ובא לך את האחד הזה שככה בלי סיבה ישיר לך אשת חיל ממצא ואין פה אף אחד ואת עוד מחכה עוד מחשבת המסלול שלך בני ברק או ערק מה שיותר קרוב לבלגן רוצה קצת שקט לא יזיק לך כבר מזמן הלב שלך מסמן לך לעצור ואת במקום לחזור נשארת כאילו מחלקים שם אהבה עומדת בטור וברור לך שרק הוא יעזור יוציא אותך מחושך לאור כמו מים מתוקים לנשמה אוי כמה את ביקשת נחמה מסדר לך כוכבים כרצונו את השמש בתוך לילה שחור כמו מים מתוקים לנשמה אוי כמה את ביקשת מבינים כי מי יבין אותך תגידי לי מה את רוצה אחד מלאך או אחד מסובך אחד שיבוא ואוהב את השם שלך שיבוא בחגים ילך בבקרים יתפוס לך פינה בלילות הקרים אם את לא רגועה ולא יודעת אם טוב לך או שרע וברור לך שרק הוא
Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À demain. Radio J.
שבאזור אבן גבירול מתבצע שוט ברגע זה יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן אני רוצה מעצר מהיר וסלפי לילדה
תרימו את הידיים כי זה שוט זוכר את התוכנית אבל תגידי לי בסוף
נדבר עם העיניים לא לדאוג אסור לכם לשבת ילד כולם לעמוד
נטפל במצלמות מצלמות בשומרים אל תשאירי עקבות עקבות עקבים כל הכסף ערמות ערמות בסדים אם נפיל את האזקות אזקות אזיקים
יש לכם את הזכות לשמור על שתיקה עד שאין את הקוד אני לא מפסיקה פתחו את החדשות אני מסריקה שודד את העשור מביא המכה
איזה מכה?
אם לא נתפס להרוס את הבגדים ובבוקר נברח שהשמש תזרח
יהיה לנו את הפשע המושלם אם תשמחי עליי
תשמוך עליי
תשמחי עליי
תשמוך עליי
תשמחי עליי
תשמוך עליי יהיה לנו
ירימו את הידיים כי זה שוט זוכר את התוכנית אבל תגידי לי בסוף
לדבר עם העיניים לא לדאוג אסור לכם לשבת יאללה כולם לעמוד
עשינו כל מה שאסור נראה לי שמצאנו את החיבור פתח את הקשר יש על זה דיבור
קיבלתי
כואב להם הראש מהסיפור זה או שתשבו בשקט או כדור
ביו ביו
כולם פה ומאסר על תנאי עשינו את המיליונים יאללה ביי בוינג לדובאי כל מי שפתח עליי קנאי כל מי שפתח עליי קנאי כמו לא נתפס להרוס את הבגדים ובבוקר נברח שהשמש תזרח
יהיה לנו את הפשע המושלם אם תשמחי עליי תשמחי עליי תרימו את הידיים כי זה שוט זוכר את התוכנית אבל תגידי לי בסוף
לדבר עם העיניים לא לדאוג אסור לכם לשבת יאללה כולם לעמוד אדון שוטר אתה מפחיד אני יותר תיקח אותי לתחנה ממני לא תוציא מילה
קיבלתי
אדון שוטר אתה מפחיד אני יותר תיקח אותי לתחנה ממני לא תוציא מילה
וואלה גאה בך
לך לכם על שין
Radio J, la chronique de Jean-Claude Kupermanck, directeur de la bibliothèque de l'AIU, Alliance Israélite Universelle. Jean-Claude Kupermanck, bonjour.
Bonjour Lise.
Alors, novembre 1894, l'affaire Dreyfus vient de commencer.
Tout à fait, et en fait... Vous allez voir que l'affaire Dreyfus, elle dure officiellement entre 1814 et 1906.
Alors, elle a 130 ans et on n'a toujours pas fini d'y revenir. Au printemps 2025, le MAJ organise une grande exposition sur le sujet dont j'aurai bien sûr l'occasion de reparler. Et vous avez décidé d'accompagner ces commémorations d'une manière particulière qui vous est propre, cher Jean-Claude Kupermanck.
Alors, en effet, la Bibliothèque de l'Alliance est un des lieux de conservation de documents uniques sur l'affaire Dreyfus. Elle va prêter de nombreuses pièces pour l'exposition hommage. On aura l'occasion d'en reparler et recèle entre autres les collections privées de Bernard Lazare lui-même, donc des papiers, des livres ayant appartenu à Bernard Lazare. Bon, j'ai décidé de suivre l'affaire en vous replongeant, alors j'imagine ça va être des rendez-vous tous les plus ou moins deux mois sur cette antenne, dans les pages de la presse juive de l'époque pour suivre l'évolution des événements comme si vous étiez présent à l'époque, c'est-à-dire sans avoir le surplomb, le recul de plus de 130 ans d'études historiques.
Alors l'affaire débute donc en octobre 1894 avec la découverte à l'état-major d'un cas d'espionnage. Mais l'affaire n'est pas rendue publique immédiatement. De quand date sa première mention dans les archives israélites de France, Jean-Claude ?
Eh bien... Après ce que j'ai pu voir, c'est le 8 novembre 1894, donc trois semaines après le début réel de l'affaire. Alors, c'est pas le début officiel, hein, puisque beaucoup de choses se passent totalement en secret au sein de l'état-major, mais il y a déjà eu, avant cette publication par l'Alliance, des révélations dans des journaux, et principalement dans les journaux antisémites, la France juive de Drumont, entre autres, qui commencent immédiatement à attaquer Dreyfus et à sous un angle antisémite. Donc dans la presse juive, ce que je vois, donc c'est le 8 novembre 1894, c'est un article qui s'intitule « Réaction salutaire ». Et c'est un article en fait qui rend compte d'un article de presse qui est lui-même un article de presse assez exceptionnel puisque c'est un des très rares qui, dans ses tout débuts de l'affaire, ne rejoint pas la meute des accusateurs de Dreyfus et qui défend simplement la présomption d'innocence. Ça nous rappelle aussi beaucoup de nos affaires contemporaines.
Oui, beaucoup. Donc
c'est un article d'Émile Bergerat qui paraît dans le journal qui s'appelle Le Journal, un quotidien du 6 novembre et qui est intitulé La prévention morale. Alors attends, je vais vous en dire quelques extraits, donc surtout comment le journal juif présente ça, à l'affolement de colère irréfléchie qu'avait provoqué, avant tout examen de sang-froid, l'affaire dite du capitaine Dreyfus, vous voyez toutes les précautions hein, qu'on prend au tout début, succède déjà une réaction salutaire. Donc voilà, les Juifs, ils vont vers le truc positif qui peut être bien, bien pour eux. Donc, il parle de plusieurs articles et il parle d'un article... Entre autres, paru dans donc le journal par Monsieur Émile Bergerat sous le titre « La prévention morale ». Et on y lit entre autres « Pour défendre les droits, le droit imprescriptible qu'a un homme accusé d'être innocent ». Alors, quelques mots de Bergerat. Je ne prétends pas le moins du monde que tel soit le cas du capitaine Dreyfus, c'est-à-dire qu'il est innocent. J'en sais rien, je ne le connais pas, et quelque goût qu'on le puisse avoir pour le paradoxe, on ne risque pas celui de défendre un citoyen inculpé de haute trahison pour le plaisir de se singulariser bêtement. Il y va ici de la vie d'un homme, il y va aussi de l'honneur d'une famille, et le paradoxe est plus intempestif encore, si paradoxe il y a, de le condamner à l'infamie avant que son procès soit ouvert par mode de prévention morale. C'est affreux, savez-vous bien, et digne des Caraïbes. Alors Caraïbes, ça veut dire des pays lointains et non civilisés. Cette justice sommaire, tumultuaire, aveugle, sourde et poltronne, qui décide le crime sur le seul fait de l'accusation, que dis-je, sur la religion même d'un accusé. Voilà. Il y a quelqu'un quand même déjà dans la presse française qui a ce point de vue.
Ce pressentiment un peu, ce
voilà
point de
ce
vue.
Voilà ce que relève la presse juive, c'est justement cette défense. Ensuite, on a... faut attendre le 6 décembre pour avoir de nouveau une évocation de l'affaire. Alors là, c'est un peu plus baroque. C'est un long article toujours dans les archives israélites, donc du 6 décembre, de Isidore Cahen, le fondateur, l'animateur du journal. Ça s'appelle Le roman d'une accusation. Et ça se fait l'écho du fait qu'on a découvert, en cherchant un peu depuis les débuts de l'affaire, qu'il y a eu un article qui est paru en juin 1894, donc bien avant le début de l'affaire, qui était un petit roman intitulé « Les deux frères », paru dans le Petit Journal et signé d'un certain Louis Létang. Et là, il y a plein de journaux qui reprennent des extraits de ce texte parce qu'il y a effectivement des similitudes entre l'imagination de l'auteur et ce qu'on sait de l'affaire Dreyfus. Donc c'est un peu... j'allais dire amusant que la presse juive consacre autant de temps à cet épisode qui, selon Philippe Auriol, le très grand spécialiste de l'affaire, n'est qu'une sorte d'épiphénomène ou voire une fausse piste qui n'a vraiment aucune influence réelle sur l'affaire. Mais voilà, c'est peut-être un peu l'idée, on verra peut-être cela évoluer, que au début, devant l'avalanche de l'antisémitisme qui apparaît et qui se répand dans la presse, bah, la presse juive, elle est très gênée. Elle n'est pas encore une presse de combat, elle n'est pas encore prête à assumer une défense
vive. Mais elle va le devenir.
Difficilement.
Difficilement.
On verra
hein.
l'évolution, oui. Justement. Et elle s'intéresse à tout ce qui peut sauver, j'allais dire plus dans les coins que sur le principe même, l'affaire de Dreyfus. Donc voilà, c'est quelques indications comme ça que j'ai essayé de relever petit à petit. Ce fameux roman Les deux frères, il est signé d'un certain Louis Létang, dont on connaît vraiment pas grand-chose. Et vraiment, je pense que ça n'avait aucune... Enfin, les historiens aujourd'hui pensent que ça n'a eu aucune influence réelle sur l'affaire, mais quand même, la presse juive va y passer pas mal de temps.
Et on trouve tous les documents donc sur la bibliothèque en ligne,
voilà,
aiu.org.
Vous pouvez vous amuser vous-même, bien sûr, en regardant la bibliothèque en ligne. Vous pouvez sélectionner un mot, vous pouvez sélectionner le mot Dreyfus, et puis sélectionner une année, et voir ce qui s'est dit en 1894 sur un sujet ou un autre.
Et puis pour illustrer, on peut peut-être terminer en disant qu'on peut aussi aller visiter en région parisienne le musée Dreyfus et la maison de Zola. C'est au même endroit. Et se pencher sur les archives, bien sûr, de l'Alliance.
Absolument.
Merci beaucoup pour tout cela, Jean-Claude Kuperminck. Et à dans 15 jours sur Radio J. Merci.
Merci, au revoir.
Radio J.
Bonjour.
Le 6-9, Hélène Aferradian.
Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio J.
ננסה ונקום מזה ובמקום לפרק את הכל בוא נצמח מזה הכאב הזה הוא זמני והנצח הוא גדול את בשלך והכל הופך למסובך לא יעשה מזה כלום ונקום מזה ובמקום לפרק את הכל בוא נצמח מזה הכאב הזה הוא זמני והנצח הוא גדול את בשלך והכל הופך למסובך לא יעשה מזה כלום מזה הכאב הזה הוא זמני והנצח הוא גדול את בשלך והכל הופך למסובך לא יצא מזה כלום איך אני כבר לא עומד בזה לא עומד בזה לא עומד בזה שוב
רדיו ג'י
Le cinéma parlant Lynn Toviana
Lise Gutmann
Lynn, bonjour.
Bonjour Lise.
Alors merci d'être avec nous ce matin avec un immense invité en studio, je dis bien immense. J'assume, il s'agit de Michel Hazanavicius qui nous fait le plaisir d'être là pour son film La plus précieuse des marchandises.
Bonjour et merci.
Bonjour Michel.
Michel. Bonjour. Alors, votre film, La plus précieuse des marchandises, est adapté du conte de Jean-Claude Grimbert. C'est un film d'animation avec les voix de Jean-Louis Trintignant comme narrateur, Dominique Blanc, Grégory Gadebois. Alors, on va parler d'abord très brièvement de cette histoire. De ce conte, l'histoire d'un bûcheron et d'une bûcheronne qui recueille un enfant trouvé dans la forêt et qui a été lancé dans la neige hors du train de la mort par le père de cet enfant et pour le sauver d'une mort certaine. Ce film se situe effectivement pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà, alors avant de vous interroger sur ce film, on va écouter la bande-annonce.
Il était une fois dans un grand bois un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour,
quelle espèce il appartient. C'est un sans-cœur. À mort, le sans-cœur.
Les sans-cœurs ont un cœur.
Précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius Lynn.
Voilà, on entend aussi la belle musique d'Alexandre Desplat. Alors, Michel Hazanavicius, j'ai vu votre film au Festival de Cannes et je l'ai revu au Festival de Deauville et j'ai été vraiment éblouie par ce film magnifique qui, à mon avis, aurait vraiment mérité la Palme d'Or au Festival de Cannes. Vraiment. J'ai beaucoup regretté que...
Elle me l'avait dit hors antenne, qu'elle regrettait.
Tout à fait.
Écoutez, ça en fait un film qui n'a pas de prix. Donc.
C'est parfait. Alors, je voudrais savoir comment vous avez eu l'idée d'adapter ce conte de Jean-Claude Grimbert.
Bien, c'est le producteur qui m'a appelé, Patrick Sobelman, qui, par le biais de Robert Guédiguian, à qui Jean-Claude Grimbert avait envoyé les épreuves de son livre, qui n'était pas encore publié, s'est retrouvé avec la possibilité de produire ce film, et il me l'a envoyé en me proposant d'en faire un film d'animation. Je crois d'ailleurs que c'était une idée de Jean-Claude Grimbert au départ, et en tombant sur ce texte qui n'était pas encore publié, donc avec en plus quelque chose j'avais l'impression d'avoir un trésor caché que personne ne connaissait, comme j'imagine, enfin j'exagère volontairement, mais j'imagine que les gars qui sont rentrés, qui ont redécouvert Lascaux les premiers, ils devaient quand même avoir un petit pincement au cœur. Donc sans aller jusque-là, mais en tous les cas, j'avais ce truc que personne ne connaissait et j'ai été bouleversé par cette histoire que j'ai trouvé magnifique. Et dans l'histoire qu'elle raconte et le geste littéraire de la raconter sous forme d'un conte, de s'adresser aux enfants également, en tout cas, je trouvais qu'il y avait là une élégance qui est vraiment très qui ressemble à Jean-Claude Grimbert, à tout son travail.
C'est l'auteur dramatique qui est le plus joué dans le monde entier. Et puis, il a vraiment un talent littéraire extraordinaire.
Quoi. C'est un des auteurs français qui, effectivement, est le plus joué. Enfin, ses pièces ont été jouées partout, effectivement. Et il a toujours écrit sur le sujet. C'est-à-dire que ça fait 60 ans qu'il écrit sur le sujet. Et là, il a fait, au bout de 60 ans, un geste, je trouve... Enfin, il faut beaucoup de métier ou beaucoup d'instinct au bout d'un moment pour arriver à faire un geste qui a l'air comme ça aussi simple. La simplicité étant ce qu'il y a de plus compliqué à trouver, quoi.
Oui. Et ce choix de l'animation, ça ne vient pas de vous ?
Non, mais pour tout vous dire, je l'aurais pas fait si ça n'avait pas été de l'animation. Donc, je crois qu'il y avait quelque chose qui était évident, inhérent au projet. Donc, effectivement, c'est une décision qui a été prise avant que je sois.
Mais pourquoi
associé.
Vous ne l'auriez pas fait ?
Parce que je ne me vois pas. Parce qu'il y a des scènes. Comment dire ?
Dures à reconstituer. C'est ça ?
Oui, enfin, il y a des scènes dans des convois de déportés.
Voilà.
Pour la première fois de dans son œuvre, Jean-Claude Grimbert rentre dans un convoi de déportés et pousse même la porte des camps d'extermination. Quand on le fait d'une manière littéraire, on peut trouver une forme qui vous amène en tant que lecteur à la bonne distance des choses et qui amène la littérature de fait de la pudeur, si vous voulez, parce que ce sont des mots. Et quand on doit mettre des images, il y a tout de suite une forme de trivialité, il y a tout de suite dans ce cas-là, en ce qui me concerne, un risque d'obscénité.
C'est toute la question de la représentation de la Shoah.
Bien sûr.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut pas raconter la Shoah, quel que soit le format ou le, on peut pas raconter des millions de vies qui sont chacune serait l'objet d'un livre immense. Donc, si vous voulez, ça n'a pas de sens de vouloir raconter la Shoah. C'est dément. En revanche, on peut évoquer, dans le cadre d'une histoire, on peut évoquer, mais même évoquer, c'est très compliqué, d'être à la bonne distance, de trouver la bonne manière.
C'est le dessin, justement, qui permet de prendre cette distance. Et en plus, il faut dire que c'est vous-même qui dessinez les personnages,
ouais.
Qui avez dessiné le film.
Pas tout le film, mais oui, les personnages. Le dessin, c'est pas que le dessin... Le permet, mais le dessin est l'outil qui le permet sans doute pour moi en tous les cas le mieux, c'est-à-dire en fait si vous voulez la problématique c'est sachant qu'on ne peut pas montrer ce qui est immontrable, on ne peut pas montrer parce que c'est un film, donc c'est un spectacle, dans un spectacle si je montre ce qui s'est passé à Auschwitz, les gens soit s'évanouissent, soit sortent de la salle, donc il y a une impossibilité à montrer ça. Et en même temps, si vous montrez autre chose, il y a, y, a, y, a, il y a un fort, comment dire, danger de dire des conneries, enfin de raconter un mensonge. Donc la vérité est entre les deux, enfin la vérité de celui qui veut évoquer, c'est justement c'est la suggestion.
La délicatesse qui est vraiment présente dans le film.
Et qui est présente dans l'œuvre donc de Grabert, que j'ai essayé de porter, enfin que j'ai décidé de porter au cinéma. Et, mais c'est vrai que les acteurs, pour en revenir à votre question, un film avec des acteurs, c'est un film qui reconstitue le réel. Le dessin ne reconstitue pas, il réinvente. Et donc, dans cette réinvention-là, il y a, je crois, plus matière à essayer de trouver la bonne distance. Ouais.
Alors vos personnages, le personnage de la bûcheronne qui recueille l'enfant, le soldat à la gueule cassée, le pauvre bûcheron qui fait tout un chemin vers, vers justement cette reconnaissance de la vie et de l'enfant, ce sont des personnages de juste en quelque sorte.
Alors le bûcheron, la bûcheronne, effectivement, c'est justement quand on parlait de... du geste de Grimbert et de la délicatesse, c'est justement, c'est une histoire qui est profondément tournée vers la vie, c'est-à-dire que tous ces personnages-là luttent pour la vie. La leur, dans le cas du père de cette gamine, qui lutte pour sa propre survie, mais les bûcherons, ils luttent pour la vie d'une petite gamine qu'ils ont récoltée, qui a été jetée d'un train. Donc effectivement... c'est pas un film qui, c'est ni une longue prière pour les victimes, ni une analyse clinique ou philosophique du bourreau. C'est au contraire une célébration de la vie et de ceux qui ont sauvé l'honneur de l'humanité dans cette histoire-là, à savoir les justes, et qui sont des films qui, je crois, incarnent une figure qui est profondément actuelle. C'est-à-dire que le monde s'est écroulé à Auschwitz et ces gens-là sont restés debout. Aujourd'hui, il y a plein d'endroits où, quand on réfléchit, on a l'impression que nos valeurs s'écroulent, on a l'impression que tout ce qui nous a constitué pendant des décennies est en train de s'écrouler, de disparaître. Ça ne doit pas nous empêcher de bien nous comporter, parce que les justes, c'est des gens qui ont fait un choix.
Justement, c'est vraiment un film tout à fait utile dans le contexte actuel, hein, puisque il y a encore cette histoire de que les sans-cœurs n'ont pas de cœur, hein, ce qui est répété souvent dans le film.
Mais oui.
Eh bien, il faudrait peut-être donner une optique différente de celle-là.
Oui, alors, bon, moi, je fais des films, alors les mots utiles, importants, nécessaires, tout ça me font très peur, parce que je veux juste créer du désir, c'est-à-dire que les gens viennent au spectacle, ils viennent pas prendre une leçon, ils viennent pas prendre... Mais ça n'empêche pas à l'histoire d'avoir de la profondeur. Mais en tous les cas, je pourrais pas dire j'ai fait un film utile, certainement pas, je suis pas médecin. Mais j'ai essayé de faire un beau spectacle. Voilà.
C'est un film très poétique, très beau.
C'était l'idée.
Voilà. Vous avez prononcé le mot enfant. C'est pour enfant à partir de quel âge, selon
alors,
vous?
Alors, je l'ai montré...
12 ans, hein, je crois.
Alors, non, moi, quand on m'a demandé, j'ai dit plutôt collège. Donc, c'est un peu plus tôt.
Oui,
mais pour l'avoir montré depuis début septembre, donc j'ai fait beaucoup, beaucoup de dates, il y a beaucoup de parents qui sont venus avec leurs enfants. Ce qui est un peu différent de profs qui viennent avec une classe entière. Quand un parent vient avec son enfant, il a quand même une connaissance de la maturité émotionnelle et de ce qu'est capable de comprendre son gamin. Et il y a plein de gamins de 9 ans qui sont venus et qui ont absolument tout capté du film, ils l'ont très bien compris, ils ont pas du tout été plus, ils étaient même plutôt moins choqués que les adultes, pour tout vous dire. Et il y a même quelques jours une gamine de 7 ans qui est venue, moi j'aurais cru que c'était un peu jeune, mais elle a très bien elle a posé beaucoup de questions à sa mère pendant tout le, mais sa mère était hyper contente d'être venue avec cet enfant de 7 ans. Donc je dirais qu'il y a pas de, il y a aucune image explicite dans le film, si vous voulez, quand vous vous adressez aux enfants, vous voulez leur raconter la vérité, vous voulez pas leur dire des mensonges, vous voulez pas leur dire que la vie était belle à Auschwitz. Pas du tout, vous devez leur raconter la vérité. Mais pour autant, vous ne devez pas les traumatiser. Donc il faut les protéger, il faut faire très attention à la manière dont on raconte. Et donc, je vous dis, il n'y a pas d'image explicite dans le film, les moments... où on est ému, sont plutôt des moments qui nous bouleversent par la, justement la générosité des personnages. C'est pas, Il n'y a aucune fascination pour l'horreur, si vous voulez.
Ce que vous dites me fait penser au film de Roberto Benigni, La Vita est belle. Là. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film?
Je ne l'ai pas vu. Mais je ne l'ai pas vu parce que, justement, en fait, alors Grimbert étant un ami de la famille de mes parents depuis qu'ils ont 15 ans, donc j'ai toujours vécu avec Grimbert. C'est vrai qu'il y avait, dans la polémique autour de ce film-là, c'est vrai que nous, on était. Enfin, nous, en tous les cas, je ne l'ai pas vu, mais je n'ai pas eu le besoin de le voir. J'ai pas eu besoin de le voir parce que y avait quelque chose un peu gênant dans l'énoncé même. Et alors, je vais citer. Godard, qui est Jean-Luc Godard, qui est pas le plus judéophile de tous les cinéastes,
oui.
Mais qui a soulevé, je trouve, avec son sens de la formule habituelle, il a assez bien résumé la situation. Il a dit qu'il n'aurait pas dû l'appeler La vie est belle, il aurait dû l'appeler La vie est belle à Auschwitz. Et effectivement, c'est sans doute le grand problème du film.
Oui. Ouais. Tout à fait. Alors, vous avez des projets pour d'autres films?
Pour l'instant, je n'ai pas de projet de film. Je suis en train de finir l'écriture d'un livre qui est une galerie de portraits de combattants ukrainiens que j'ai été rencontrés. Et voilà, ce sont des portraits écrits et dessinés. Et donc voilà, ce sera pour février. Mais au cinéma, je n'ai pas encore.
On aura le plaisir, j'espère, de vous recevoir autour du livre.
Avec plaisir.
Écoutez, merci Michel Hazanavicius pour ce merveilleux film, La plus précieuse des marchandises. Et on encourage nos auditeurs à aller voir ce film.
Vraiment, allez-y, courez-y. Oui. Et c'est important. Puis c'est quand même une belle transmission. Juste très, très vite, vous avez travaillé avec Grimbert. Il a vu le film, bien sûr.
Il a dit quoi ? Il a beaucoup aimé le film. Il y a une histoire que j'aime bien raconter parce que on a deux minutes ou...
Oui, on a deux minutes.
Alors, vous savez, il a été caché pendant la guerre.
Oui.
Lui, il avait 4 ans, 4-5 ans, et c'est son grand frère qui avait 4 ans de plus que lui, l'a protégé d'une certaine manière. C'est lui qui a un peu tout encaissé, comme le font les grands frères dans ce genre de situation. Et pendant toute l'écriture de son œuvre, Grimbert, son grand frère lui a toujours été un peu sceptique sur ce qu'il faisait, sur ses pièces, sur ses livres, etc. Il a toujours un peu fait la moue. Et là, il est venu voir le film et il a été voir Jean-Claude. Il lui a dit, ça va rester. Alors Jean-Claude, si vous voulez, pour lui, c'est une espèce de consécration.
Bien sûr. Ouais,
et voilà, donc il est très, très heureux du film.
Super. Et nous sommes heureux aussi
pour lui.
De cette réussite.
Chère Lynn.
On va écouter la chanson qui figure dans le film, à la fin du film, de Michel Hazanavicius. C'est Tchiri Bim, Tchiri Bom.
C'est la
version
Barry des
Sisters.
Voilà. Chiri bim bom 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 bom, chiri biri 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 bim bom bom, chiri biri 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 bom, chiri bim bom 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 bom.
Lo mir singen Kinder lachen zeimer und zusammen, ein Leben gula freilachen mit Werther lachus kramen, die Mami kocht a Lopschen Suppe mit Kasche in mit Knädel. Kinder jontet pieren, wenn wir spielen, sich in Dreidler. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribiri, biri, 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 bim, bom, bom. Chiribiri, biri, 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 bom, chiribim, bom, 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 bom. Amulis in the revenue, gegangen in Verwegen, mit Amul hegt uns die Pluchen in Gießen erregen. Schreit der Rebbe zu der Schmarre her auf Gießen Wasser, sehnen alle sie den Tricken erreus, nur der Rebbe so reus an Asser. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribim, chiribom, chiribim, bom, 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 bom. Chiribiri, biri, 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 chiri biri 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 bom, chiri bim bom 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 bom.
scheinem Punim. Ich hämmer lachen, tug in Nacht, se loch ins Nigas Lunim. Du such hier der ist Nacht, in der Seelen, dir verkommen. Chirimim, Chirimim, Chirimim.
La meilleure version de Chirimim, Chirimim, c'est celle des Barry Sisters, qu'on retrouve dans La plus précieuse des marchandises. Michel Hazanavicius, vous restez encore deux minutes avec nous. Merci. Lynn,
oui, juste le temps de parler rapidement de deux films. Diamant Brut, le premier film de Agathe Riedinger, c'est l'histoire d'une jeune fille de 19 ans qui vit à Fréjus avec sa mère et sa sœur. Elle est obsédée par la beauté physique, par des artifices comme les faux cils, les faux ongles, les seins augmentés, enfin bon, bref. Et elle a le besoin de devenir quelqu'un de célèbre. Et elle voit en la télé-réalité la possibilité, justement, d'être aimée et reconnue. C'est un film sur le monde des réseaux sociaux, des influenceuses, un film hyper réaliste à voir.
Parfait.
Un autre film, Le Panache, là on reste avec des adolescents mais plus, moins âgés, c'est un adolescent de 14 ans. Le Panache, un film réalisé par Jennifer Devolder avec José Garcia, Joachim Arzegel et Oratica, un adolescent de 14 ans qui fait son entrée dans son nouveau collège et il craint cette rentrée parce qu'il est bègue. Voilà, donc c'est un film, une jolie comédie qui met en honneur le rôle du professeur de français qui arrive à intégrer ce jeune élève et à lui faire jouer une scène du Cyrano de Bergerac.
Wow. Magnifique, deux films à voir. Et en premier quand même, La plus précieuse des marchandises de Michel Hazanavicius. Merci Lynn Toubiana. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même studio. Merci Michel Hazanavicius.
Merci à vous.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Oi, là, היום הפסדתי בלוטו, נכנסו לי באוטו, והכל בגללך. If די, נו, אתה גבר, הבנו איפה קראת שצריך להיות חסר תקנה וואלה, יופי, איך בסוף הוצאת לי את הנשמה אז אין בעד מה, כי אפילו אחותי תסייף במכונית, איזה בן אדם מדליק את המעברר במעלית לא תגנוב לי את הקרית, לא תחשוב שלא ראיתי כשהלכתי לשלם, התחלת עם המלצרית לא תקרא לי בחיינית, חלשה ושקרנית לא תגיד שבשירים שלי אין שום דבר קליט לא תערוץ לי את החיים, את האיפור על הפנים איך תספר לאחותך שאפילו אחותי כבר לא סובלת אותך
c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Radio J.
Radio J. écoutez
Radio J.
Radio J.
Radio J.